Ce que Dieu veut faire grandir au milieu de nous ce soir, c'est la foi pour que nous puissions être bénis à la fin de la soirée. Dis à ton voisin, je ne sortirai pas frustré de cette salle. Je sortirai pleinement béni.
Amen.
Parce que c'est dans la volonté de mon Dieu. Alors ce chant nous dit, l'Éternel est mon berger, le psaume vous le connaissez, mais je l'ai fait à l'oriental. Et je dis dans ce chant, Ya Habibi, Yallah, Yallah, pas Allah, Allah ça veut dire Dieu, Yallah ça veut dire allons, allons-y, allons-y. Habibi ça veut dire amour, tendresse. Allons vers la tendresse de Dieu, vers l'amour de Dieu, parce qu'il est notre berger. Marcel, c'est le psaume 23, c'est pas le premier, c'est Marcel, formidable Marcel. Vas-y, envoie la sauce, Marcel. Merci. Si vous voulez vous lever, danser, chanter, j'aimerais pas être tout seul. Alléluia, on peut se lever, SM. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il reste... Ça n'arrêtait pas. Eh ben, même sous la pluie, j'ai besoin de Jésus. Ce chant dit... Il est marqué « Libère-moi », c'est la page Marcel. Vous allez l'entendre souvent ce soir. Tu peux mettre le chant « Libère-moi », mon frère. C'est, je sais pas, tu te débrouilles. Allez, l'église du réveil ! Réveille-toi ! Allez, on va aller se promener dans l'Orient. J'ai besoin de toi chaque jour dans ma vie. J'ai besoin de toi pour avancer, même sous la pluie. J'ai besoin de toi chaque jour, chaque seconde. J'ai besoin de ton amour pour qu'il m'inonde. Que mes rêves ne soient plus les rêves du passé. Que ton appel qui vibre en moi soit une réalité. Pour marcher dans les voies de l'éternité, je désire vivre pour toi. Libère-moi, transforme-moi, change-moi Seigneur. Je ne peux plus vivre ici-bas sans toi. Libère-moi, transforme-moi, change-moi Seigneur. Je ne peux plus vivre ici-bas sans toi. J'ai besoin de ta parole qui vibre en moi. Elle est ma nourriture et fortifie ma foi. J'ai besoin de te connaître davantage pour m'approcher du trône de la grâce. J'ai besoin de me sentir pardonné, libéré, guéri et affranchi. J'ai besoin de vérité, de ton appui. Je t'en prie, Jésus, viens me changer. Libère-moi, transforme-moi, change-moi, Seigneur. Je ne peux plus vivre ici-bas sans toi. Libère-moi, transforme-moi, change-moi, Seigneur. Je ne peux plus vivre ici-bas sans toi. Hey. Hallelujah. Le Dieu qui transforme des vies, le Dieu qui libère, le Dieu merveilleux, Jésus, change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Libère le zèle de ta maison en nous, Seigneur. Avec moi. Libère-moi, transforme-moi, change-moi, Seigneur. Je ne peux plus vivre ici-bas sans toi. Libère, libère-moi, transforme-moi, change-moi, Seigneur. Je ne peux plus vivre ici-bas sans toi. Libère-moi, transforme-moi, change-moi, Seigneur. Je ne peux plus vivre ici-bas sans toi. Libère-moi, transforme-moi, change-moi, Seigneur. Je ne peux plus vivre ici-bas sans toi. Libère, Seigneur. Alléluia. 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 Reprenez place. Bon, maintenant, on est à l'école. J'ai pris des notes de toute façon. J'ai vu qu'il y en a qui ne chantaient pas. J'ai les noms. Alléluia. Je vais vous donner mon témoignage parce que j'ai à cœur de vous dire comment Jésus a transformé ma vie. Je suis né dans une famille musulmane. Mon père était un musulman, ma mère était une musulmane. Et il nous inculquait la religion, il nous a enseigné comment prier chaque jour. Et moi, comme je savais que mon père, quand il disait quelque chose, il avait raison, eh ben, j'avais envie de le suivre, j'avais envie de croire tout ce qu'il me dit. Et ce que mon père disait était parole d'évangile. Alors un jour, mon père a dit, il a fait venir un imam à la maison et il nous a enseigné le Coran, les prières 5 fois par jour, le ramadan et puis tout ce que comportait la religion. Et moi, j'avais tellement envie de faire plaisir à mon père que j'ai commencé à lire et à écrire et à comprendre et à prier ce Dieu pour lequel j'avais plus peur. J'avais peur de ce Dieu qu'il ne m'accepte pas. On me parlait tellement des choses de l'enfer et autres que je finissais par tellement avoir peur et en faire des cauchemars. Et un jour, je me suis appliqué à réciter les prières du Coran. J'ai tellement prié que un jour, le maître imam a vu que j'avais fait une faute de prononciation d'un verset du Coran et il m'a tellement fait mal, il m'a frappé avec une règle sur la tête. Et à cet âge-là, quand vous avez à peu près 7 ou 8 ans, vous êtes traumatisé, quoi. Vous êtes complètement traumatisé. Ça m'a tellement fait mal. Mais en même temps, je me suis dit, c'est peut-être qu'il faut que je souffre pour plaire à mon père et pour obéir à ce qu'il me demandait de faire. Alors nous sommes une famille de 13 enfants. Il y a 5 garçons. Et puis les autres, ce sont des filles. Et puis voilà, je vous dis pas, 5 garçons. Les princes à la maison, ce sont les garçons. Les servantes, ce sont les filles. C'était comme ça. À la maison, c'était l'Algérie et dehors, c'était la France. Et puis quand j'allais à l'école, depuis la maternelle, on n'arrêtait pas de me persécuter avec mon pays, l'Algérie. Oui, sale Algérien, sale Arabe, Bougnoul, sale race et toute la clique et tout ce qu'on pouvait dire sur moi. Et puis je comprenais pas pourquoi il m'insultait. Moi, je l'insultais pas. Je comprenais pas pourquoi. Et il me dit, retourne dans ton pays. Et ça allait même jusqu'au professeur d'école qui salissait le pays, qui me traitait, et je comprenais pas, et je suis allé voir un moment mon père, je dis, mais pourquoi ça? Il m'a dit, à cause de l'indépendance, à cause de ce que l'Algérie est devenue française, parce que la France avait colonisé l'Algérie, c'est très politique, mais t'en mêles pas. Et puis des fois, j'osais pas trop dire ce qu'il me disait. Et puis j'avais de la haine quand même dans mon cœur de savoir que ces gens-là ne m'acceptaient pas alors que je parlais leur langue et que j'avais rien fait de mal, j'étais simplement né en France et que j'avais besoin de vivre comme tout le monde. Et puis un jour, je rentrais de l'école et c'était vers 16h30 et ma mère nous préparait toujours des petits goûters et on était tellement contents de prendre le petit goûter à la maison, ça nous donnait un peu de soleil parce que à l'école c'était la misère. Les professeurs parfois ne voulaient pas nous apprendre, ils voulaient pas nous donner les réponses et on devait se débrouiller. C'était comme ça. Aujourd'hui ça a changé, heureusement que ça a changé. Mais en même temps, on se récolte le fruit de ceux qui ont grandi avec cette haine, avec cette envie de se venger. Mais moi, Jésus m'a changé. Heureusement qu'il m'a changé. Et c'est pour ça que je suis en train d'écrire un livre sur l'identité aujourd'hui. Est-ce que je suis Algérien, Français, musulman ou chrétien? Et ça, beaucoup de jeunes en France sont perturbés à cause de leur identité parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus, parce qu'ils n'ont pas vu que Jésus pouvait transformer leur vie. Alors ce jour-là, je rentre de l'école, je vois l'ambulance devant chez moi. Et je me dis, ça y est, il s'est passé quelque chose. Je cours, j'entre dans la maison et je vois dans les pièces qui étaient dans le couloir, mes frères, mes sœurs qui pleuraient. Mais qui pleurait tellement fort, c'était un pleur comme si c'était quelqu'un qui était mort, et j'essayais de leur dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et personne ne voulait me dire quelque chose. Ils étaient traumatisés, ils étaient en train de pleurer. Et j'avance vers le salon, et je vois ma maman qui est allongée, comme ça, sur le divan, mon père qui essaie de la réanimer, les docteurs qui ont dit que c'était trop tard, les pompiers qui partaient, et la maison était en train de pleurer, même les murs criaient. Et mon père, pour la première fois de ma vie, cet homme de carrière militaire, cet homme robuste, cet homme qui nous enseignait toujours le courage, pleurait comme un gosse. Et ça m'a tué, ça m'a vraiment fait mal. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait ce Dieu-là? Nous, on essaye de le servir, on essaye de lui plaire, on fait tout ce qu'on peut. Pourquoi il nous permet? Ma mère avait 45 ans quand elle est décédée. 45 ans, c'est jeune pour une femme encore. Et puis, un an plus tard, comme le malheur ne s'est pas arrêté chez nous, mon père, un an plus tard, un an et demi plus tard, décède aussi d'un cancer. Il meurt foudroyé. Et là, il laisse une famille, tous les petits garçons. Les sœurs étaient un peu plus grandes. Et puis, une de mes sœurs a trouvé une idée, c'est de rapatrier mon frère et moi en Algérie. Elle nous a rapatriés, mais sans nous le dire. Elle n'a pas prévenu qu'elle allait faire ce genre de choses. Et elle nous a simplement dit, vous allez aller en Algérie, vous allez rester 15 jours. Et quand on est arrivé en Algérie, là-bas, elle nous a abandonnés. On était chez notre tante qui nous a gardés pas plus de 15 jours et ensuite on était dans la rue. Imaginez-vous un instant, à l'âge de 12 ans, je suis parachuté dans un pays comme l'Algérie. Bien sûr, je suis pleinement algérien, pleinement français. Mes racines sont en Algérie, mais je le connais pas. Je connaissais pas encore le pays. Et je suis parachuté dans un pays et livré à moi-même. Livré à moi-même. Et on ne savait pas, mon frère et moi, on était dans la rue, on ne savait pas où aller. La famille, soi-disant, voulait nous accueillir, mais personne ne pouvait nous accueillir. Et on a ouvert une porte de garage de station essence, et puis on a dormi dans une camionnette d'essence, comme ça, et on puait l'essence. Et je me souviens une chose, c'est que quand on m'avait enseigné, qu'on m'avait inculqué sur la religion, un des imams m'avait dit, tu sais, nous, on n'aime pas les juifs. Et il faut mépriser les chrétiens. Voilà nos ennemis. Moi, je savais pas pourquoi ces juifs, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Quel était leur problème? Mais c'est tout. Tu cherches pas à comprendre, tu dois détester les juifs et tu dois pas aimer les chrétiens. Ne rentre surtout pas dans une église et surtout s'il y a une croix. Pourquoi? Parce que c'est haram. C'est pas bon. Donc, c'était des choses qu'il fallait se méfier. Et donc, j'ai appris, j'ai grandi comme ça, tout petit, avec cette pensée-là et qui m'a été inculquée. Et puis, dans ce garage, on puait l'essence, mon frère et moi, on mangeait pratiquement rien et on était livrés à nous-mêmes. Et un jour, le patron de l'essence, il soulève le garage et il nous voit tous les deux dans la camionnette. Mais il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On dit, vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous voler. C'est qu'on ne sait pas où dormir. C'est pas un endroit pour vous. Il dit, vous êtes les deux petits qui viennent de France là. On lui a dit oui. Bon, venez à la maison. Il nous a pris chez lui. Il a dit à son épouse, donne-leur à manger, donne-leur un bon repas. Et fais-les dormir dans des draps propres, et puis prends-leur une douche. Et demain, on verra. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il nous a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et on lui a tout expliqué. Et on a appris que cet homme était un juif. Et là, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais? Et je me suis regardé avec mon frère. Et je dis, tu te rends compte? Ceux qui se disaient nos frères, ceux qui se disaient notre patrie, ceux qui se disaient proches. Ma propre sœur nous a abandonnés. Et mon ennemi, qui, soi-disant mon ennemi, est celui qui vient me secourir. Il est celui qui vient me tendre la main. Et je lui dis, mais vous vous êtes pas trompé. Il m'a dit non. Il m'a dit, on peut pas faire grand-chose. Je peux juste te payer ton billet d'avion. Je peux juste essayer de te débrouiller un peu de boulot et te trouver une petite piole avec pour ton frère, pour toi. Et dès que vous avez quelque chose, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben, on peut vous aider. Mais on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est que vous donner à manger. Mais ne dormez plus dans cette camionnette d'essence. Et puis, au bout d'un an, donc une année en Algérie, c'était difficile pour des jeunes comme nous. À cet âge-là, moi, j'ai vu mon garçon grandir à 12 ans, en sécurité, dans une maison. Et puis des fois, j'essaie de lui parler un peu de ce que j'ai fait. Vous savez, nos ados aujourd'hui, ils ont tout ce qu'ils veulent, les PlayStation, les Xbox, et puis tas de choses. Quand je déjeune avec mon garçon ado, je lui dis, écoute, tu sais, tiens-toi droit parce que c'est important, j'essaie de lui donner une leçon de morale. Il me dit, t'inquiète. Hey, vous avez déjà parlé avec vos ados? T'inquiète, t'inquiète. Je connais tout. Vous n'avez pas vécu. Ils sont nés avant vous. Mais ça, vous ne le savez pas. Vous cherchez. Des fois, je lui dis, t'es né avant moi, toi. Ben non. Ben, il faut ça. Comment tu parles? Et moi, j'ai pas eu le temps de grandir. Des fois, ma femme me dit, bon, te laisse, c'est des ados. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, ado. Moi, j'ai dû être un homme tout de suite. J'ai dû me débrouiller tout seul. Et alors, un jour, je monte chez ma tante. Parce que de temps en temps, elle nous invite à manger. Et une de mes cousines m'a dit, tu sais, si tu veux que Dieu se révèle à toi, tu prends du couscous, tu vas à la fenêtre le soir, tu jettes un peu de couscous et un peu de sel. Puis un petit bonhomme, il va venir. Alors moi, je dis, ben, qu'on sait jamais, tu vois. Donc, j'étais dans la cuisine de ma tante. Et puis, j'ai pris du couscous, j'ai pris du sel. Et je suis arrivé dans la salle de bain, j'ai fait, et j'ai jeté le sel. J'ai dit, bon, allez, vas-y, où t'es, là, maintenant? Et pas de bonhomme. Pendant une heure, pas de bonhomme. Je lui ai dit, viens pas, ton bonhomme, jette plus de couscous. Je lui ai dit, punaise, un crevard, il a faim, lui, quoi. Donc, j'ai balancé beaucoup de couscous. Ma tante, elle a vu que j'avais balancé la moitié de la couscoussière, elle m'a mis une tréha. Là, j'ai vu Dieu, hein, je vous le dis. J'ai vu les étoiles, plutôt. Alors, les semaines passées, et puis, au bout d'un an, j'en avais vraiment marre, parce que j'ai frôlé plusieurs fois la mort en Algérie, les trains, j'ai frôlé la mort plusieurs fois. Et un jour, j'ai plongé, je me souviens, j'avais plongé à la plage, et un rocher m'avait ouvert la jambe. Je suis allé à l'hôpital avec plein de sang, et moi je me suis dit, ils vont certainement me soigner, voilà, style comme ça. Heureusement qu'aujourd'hui ça a évolué, mais avant, moi c'était la vérité, c'est ce que je vous dis. Hein. Je suis arrivé sur le brancard, le gars il m'a dit, bouge pas, on va faire diagnostic. Je dis, alors moi j'entends, il parle à son copain, il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, va voir le docteur qui l'ampute et puis c'est tout. Hein. Eh, j'ai sauté par la fenêtre. J'avais plus mal. Non, mais quand vous entendez ça, ça traumatise. Et puis, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui va pas, moi il faut que je quitte les choses, il faut que je quitte l'Algérie, il faut que je revienne autrement, il faut que je retrouve la France, il faut que je retrouve mes frères, mes sœurs. Et puis, un jour, c'était le ciel étoilé d'Alger. Et je crie à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, je te connais pas, mais si tu peux faire quelque chose pour moi, ce serait vraiment super. Et là, une image vient sur l'autoroute. C'est parce que j'avais une vision sur la route de l'aéroport. Un taxi vient et repart vers l'aéroport. Et une voiture passe dans un sens interdit. Chose banale. Mais Dieu a adapté le langage pour me parler. Et là, il venait de me dire, par où tu es venu, tu retourneras. Mais attention de prendre un sens interdit. 15 jours plus tard, ma sœur, une autre de mes sœurs débarque à Alger avec les papiers, les costumes, les nouvelles chaussures, les billets d'avion et les autorisations paternelles. Tout ça en moins de 15 jours. Rien n'est impossible à Dieu. Mais encore là, je doutais. Alors au bout de 15 jours, j'étais tellement heureux, on arrive à l'aéroport. Ça, c'est le premier miracle. Pourtant, quand je suis arrivé à l'aéroport, vous savez, j'avais 13 ans. Tu as quel âge? 9 ans, tu sais que tu peux parler à Dieu et il t'écoute. Il faut pas avoir, il n'y a pas d'âge. Il sait parler aux enfants, il sait parler même à des gens comme moi qui parfois étaient des vrais têtus. J'étais un vrai têtu et j'étais même bousillé à l'intérieur, j'étais même déréglé à l'intérieur. J'avais tellement souffert, j'avais tellement de haine. Et ben même à travers ça, Dieu, par son amour, il fait fondre la haine. Il sait parler au cœur. Et là, il avait touché mon cœur, mais en même temps, il fallait encore du temps. Et j'arrive à l'aéroport, j'avais tellement envie de partir, tellement l'avion aussi, on va prendre l'avion. Et puis vous avez un gars qui vient comme ça, mais moi je l'appelle démoralisé, quoi. Vraiment, il vient et fait, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, écoute bien ce que je vais dire. L'avion, elle peut pas décoller, il a des problèmes. Tu reviens demain. Il a appris à parler la France où, lui? Et je lui dis, eh, monsieur, c'est pas possible. Et il dit, si, il n'y a pas d'avion. Il a un problème. Tu reviens demain ou dans 15 jours. C'est tout de suite que je veux partir, moi. Ça fait un an que j'attends. Alors, il a renvoyé les passagers. Et je dis à ma sœur, non, j'attends encore. Je veux attendre encore. Je veux rester. Et là, une heure après, il revient et fait, t'as de la chance, toi. Hein. Il y a un avion, il a atterri. Belek, tu vas retourner aujourd'hui à la France. Et il y a un avion qui venait d'atterrir, il a fait escale, et le commandant de bord, normalement, ils ont, je sais pas, la procédure, je sais pas, normalement, c'est pas possible, je veux dire. Il a dit, il a accepté de prendre 3 passagers. Donc, mon frère, et ma sœur, et moi. 3 dans un avion. J'ai pris tous les plateaux, hein. J'ai dit, tu sais, les sièges sont vides, mais le ventre aussi, hein. Ramène le rab. Dieu venait d'affréter un avion pour nous retourner. On était 3 dans l'avion. Et ça, c'est des choses extraordinaires qui marquent votre cœur. Et ça, c'est l'humour de Dieu. Je suis arrivé en France. J'étais content de revoir mes frères, mes sœurs. Et j'ai pris l'essence interdite. J'ai fait que ça. J'avais oublié que Dieu venait de me bénir. J'avais oublié que Dieu avait parlé. J'avais oublié que Dieu venait d'affréter un avion. J'avais oublié tous ces petits détails. Je pensais à rien. Je me battais au couteau. Je me battais à la hache. Je me battais bagarre de rue. Et je faisais toutes les bêtises possibles. La police m'arrêtait pratiquement tout le temps. La seule autorité qui était devant moi, c'était la police. Il n'y avait personne qui me faisait peur. La haine en moi grandissait. Et puis, vers l'âge de 17 ans, j'avais tellement acquéri une certaine autorité dans la ville, un certain respect des brigands, des truands, que je passais dans la rue et j'ai vu une de mes nièces qui faisait l'armée du salut. Elle m'a dit, écoute, Jamel, est-ce que tu peux donner un peu d'argent pour les pauvres? Et puis moi, j'ai dit, oui, c'est vrai. Alors j'ai sorti de l'argent et j'ai mis de l'argent. Et elle m'a dit, mais en échange, je te donne une Bible. Et elle m'a donné un Nouveau Testament. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais avec ce Nouveau Testament? Elle m'a dit, c'est pour toi. Je lui ai dit, tu rigoles, moi je suis musulman. Elle m'a dit, depuis quand? Je lui ai dit, mais tu depuis toujours? Elle m'a dit, moi c'est l'islam, c'est pas Jésus. Elle m'a dit, est-ce que tu connais Jésus? Je lui ai dit, oui, il est à l'église Saint-Martin, sur la croix. Elle m'a dit, non, le vrai Jésus, Sina Isa, Yassou al-Messih, est-ce que tu le connais? Je lui ai dit, non, je ne le connais pas. Elle m'a dit, lis son histoire. Après, tu pourras dire que tu es d'accord ou pas d'accord. Mais tant que tu n'as pas lu l'histoire de Sina Isa, tant que tu n'as pas parlé avec Sina Isa, tu ne peux rien dire. Si tu fermes ton cœur, Dieu ne le forcera pas. Mais si tu l'ouvres, il entrera avec toi, il soupera avec toi et toi avec lui. Et j'ai dit, et si c'était vrai? Et si Jésus existe? Ben, je suis mal. Parce que si Jésus est le chemin, la vérité, la vie, je suis pas clair. J'ai dit, je veux bien essayer. Et j'ai commencé à rentrer chez moi. J'ai commencé à lire l'évangile toute la nuit. Et toute la nuit, j'ai pleuré. Toute la nuit, j'ai pleuré de toutes mes larmes, de tout mon corps. Dieu était en train de transformer ma vie, il était en train de me remplir de son amour. Il était en train, par son feu, il était en train d'éteindre le feu qui me dévore à l'intérieur. Et puis, je suis retourné voir ma nièce, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu m'as lancé comme sort? J'arrête pas de dire que Jésus est bon. Elle dit, parce qu'il t'aime, il t'a touché. Amen. Mais en même temps, je me disais, je suis en train de trahir la religion de mon père, de ma mère, de mes ancêtres. Je suis en train de trahir cette religion. Je suis en train de trahir le père qui était pour moi un modèle, un exemple, un héros. Non, je peux pas. Je peux pas. Mais quand je voyais que ce Jésus-là, waouh, quand il guérissait les aveugles, qu'il prenait soin de chacun, quand cette femme qui avait commis l'adultère et que les gens sont venus pour la lapider, il a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Moi, j'étais de ceux qui avaient la pierre. Et j'étais rempli de péché. J'ai dit oui. Je suis le premier à critiquer les gens. Je suis le premier à lancer la pierre. Mais si Jésus ne transforme pas ma vie, je meurs. Et puis, je suis allé voir les collègues, c'est pas des collègues que je dis des collègues. C'était les gars avec qui j'avais des contrats, avec qui on avait des contrats pour l'argent, pour plein de choses. Et je leur ai dit, écoutez les gars, j'ai trouvé un trésor. Il m'a dit, c'est quoi? Vous venez à l'église. Il m'a dit, on va braquer une église. J'ai dit, non. Jésus est le trésor. Et je l'ai découvert en allant à l'église. Et donc, ils m'ont dit, on peut pas te laisser comme ça, il faut qu'on mette un contrat sur toi, parce que sinon tu vas nous balancer. J'ai dit, faites ce que vous voulez. Si je dois mourir d'une balle dans la tête, si je dois mourir, eh ben que le Seigneur qui est présent, qui est puissant, il le sait. Et moi, quand je lisais la Bible, j'étais en train de mettre en action tout ce que Dieu disait. J'étais en train de le mettre à l'épreuve. Je dis, si vous voulez me tuer, tuez-moi. Il le sait. Vous tuerez le corps, vous tuerez pas l'âme et l'esprit. S'il en est ainsi, ben, faites-le. Il dit, mais t'as plus peur? Non! Parce que celui qui vit en moi est bien plus grand que celui qui est dans le monde. De quoi aurais-je peur? Ma famille avait mis un contrat sur moi parce que j'étais devenu chrétien. Ils ont dit, on va laver le sang, on va laver l'honneur dans le sang, on va le tuer. Et ils ont engagé un de mes cousins, ils ont dit, vas-y, tu le tues. Comme ça, au moins, on sera lavé. Il a jamais réussi à m'approcher, ne serait-ce que 5 mètres. Jamais il a su me croiser. Et ça s'appelle la protection de Dieu. Et quand la Bible nous dit que Dieu est un bouclier, c'est pas une blague. C'est vrai, il est un véritable bouclier. Alors j'ai commencé à aller à l'église et je me souviens, ouais, vous savez, moi j'ai fait de la boxe, j'ai fait de la lutte, j'ai fait de la bagarre de rue. Donc j'ai été un peu esprit guerrier. Et puis j'arrive à une réunion de prière et puis je vois les pasteurs qui prient pour les gens qui venaient dans la réunion prier. Et puis les gens ils tombaient, transformés, les gens ils pleuraient, ils posaient la main, paf. Il y avait tellement de choses, l'onction de Dieu descendait, ils étaient transformés. J'ai dit, punaise, ils sont plus forts que John Wayne. Et puis moi j'ai grandi avec le John Wayne, comme quoi lui c'était... Et puis j'ai dit, bon, moi je vais essayer de faire ce qu'il fait le pasteur. Le premier qui rentre chez moi, j'étais devant ma porte, j'ai dit, premier qui rentre, je lui impose les mains. Alors j'ai dit, je suis resté comme ça. Et puis un de mes frères, il vient frapper, c'est le plus gentil des frères. J'ouvre la porte, j'ai dit, ça va, tu vas bien? Il me dit, ouais, ça va. J'ai dit, toi, ça va? Il dit, ouais, ce qui paraît, t'es devenu chrétien. J'ai dit, ouais, tu veux voir? Et il me dit, ça consiste en quoi? Ferme tes yeux. Tu vas voir ce que c'est qu'un chrétien. Et il dit, va se passer quelque chose. Tu vas voir. T'as vu John Wayne? Ouais, c'est rien à côté. Et puis, il a fermé ses yeux. Bah, j'ai posé. Seigneur, donne-lui la vie. Boum. Punaise, ça a marché. Mais du direct, du live. Et mais en même temps, j'avais peur parce que j'étais tout seul. Et puis, il était là comme ça. Et j'ai dit, mais Seigneur, je t'ai demandé de lui donner la vie, tu l'as tué! Moi, je fais quoi maintenant? C'est trop puissant! Alors, j'ai couru, j'ai pris ma Bible, et j'ai dit, peut-être que la formule est dedans. J'ai essayé de savoir si j'avais pas dit quelque chose qui était pas bon. Comment ils ont fait les pasteurs? En fait, j'étais parti au moment où les gens se relevaient. Et j'avais pas vu la suite. Et puis, mon frère, j'ai pendant un quart d'heure, il était là. Et puis, à un moment, il revient à lui. Il dit, tu me touches plus. J'ai dit, d'accord, je te touche plus. Il me dit, j'ai vu des choses extraordinaires, mais en même temps, qui m'ont fait peur. J'ai vu le cratère d'un volcan en feu. Et il y avait plein d'hommes et de femmes qui imploraient la grâce de Dieu. Et qui disait, Seigneur, aie pitié de nous, fais-nous grâce. Et Dieu disait, non, il est trop tard pour vous, j'aurais voulu le faire, mais il est trop tard. Vous avez choisi votre vie en enfer. Oh, j'ai dit, tu sors ça d'où? T'as jamais lu la Bible? Je suis allé voir le pasteur, il m'a dit, oui, ton frère a une vision où il a été ravi en esprit, mais en tout cas, il a vécu quelque chose de fort. Et puis, j'ai continué à évangéliser ma famille. Et comme j'avais arrêté mes trafics de tout ça, j'avais dit, Seigneur, je veux mettre ma vie en règle, je ne vole plus, je ne mens plus, je ne bois plus, je ne triche plus, je fais plus rien, je reste calme, zen. Et je suis arrivé chez moi, mon frère vient, il me dit, qu'est-ce qu'on mange? J'y écoute, pour l'instant, Ramadan surprise. On jeûne. Il me dit, non, moi j'ai faim, frigo vide, placard vide. Il y avait juste un petit morceau de pain, la souris, elle l'a pris. Et moi, j'ai lu dans la Bible que Jésus avait multiplié les pains et les poissons. Mais j'avais pas de pain, pas de poisson. Donc je dis à mon frère, tu sais, Jésus, il a multiplié les pains et les poissons. Il faut d'abord avoir le pain et le poisson. Parce que si tu avais les pains et le poisson, moi, je les mange. Alors, il va multiplier de quoi? De zéro. J'y mets la table. On va prier. On va rendre grâce à Dieu. On va le remercier. Il dit, attends. Il est 23 heures. Il n'y a pas un magasin d'ouvert. On va prier. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le repas que tu nous donnes ce soir. Merci. T'en frappes à la porte. Je dis à mon petit frère, va ouvrir. Il dit, non, on ne sait jamais. Si c'est Jésus, moi je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et puis c'est pour vous dire que Dieu a transformé ma vie et que ce soir, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien de trop pour toi. Dieu a fait des promesses dans nos vies. Il a fait une promesse qu'il sera avec nous chaque jour de notre vie. Chaque jour. Et je pourrais vous donner des témoignages encore. Je croyais que j'allais pas réussir à faire ce que Dieu voulait. Un jour, j'ai offert une guitare à ma femme au début de notre mariage. Ça fait 30 ans qu'on est mariés. Et puis, j'ai offert une guitare. Et je pensais que ça allait lui faire plaisir. Et cette guitare, elle est restée pendant 3 mois dans le salon, sans bouger. Et j'ai dit, mais tu joues pas? Elle m'a dit, mais tu rigoles? Moi, je crois que c'était un bibelot que tu m'as ramené. Et le Seigneur me dit, mais t'as rien compris, c'est toi qui dois en jouer. Et je dis, mais je sais pas en jouer. Ben, commence. J'ai pas chanté, commence. J'ai pas fait le conservatoire. J'ai pas fait les grandes écoles de musique. Et le Seigneur m'a dit, mais t'as pas besoin de tout ça. Ce que je veux, c'est un cœur. Selon le cœur de Dieu. Est-ce que tu as ce cœur? Est-ce que tu veux me servir? Tu as le choix. Tu dis oui, tu dis non. J'ai dit oui. Il m'a dit, trop tard, t'as signé. Et ça n'a plus arrêté. Je dis pas que je vis des choses faciles. Je vis des grandes épreuves. Je vis des temps difficiles. Je vis encore des choses où il y a des combats, des luttes. Et tout ce que je chante, c'est pas chanter pour chanter. Je chante parce que Dieu transforme la vie. Ce chant nous dit, frères et sœurs, il faut prier. Je vous assure, il faut prier. Le temps que vous passez avec Dieu, vous le gagnez en énergie, en temps. Moi, j'ai appris à avoir une vie de prière, j'ai appris à prier Dieu. Un jour, une missionnaire a dit, moi, je prie 8 heures par jour. Waouh, comment elle fait 8 heures par jour? Comment elle fait pour rester 8 heures par jour? 30 secondes, nous, les Maghrébins, on a du sang. Comme ça. On est câblé sur un réseau à problème et on zappe d'un problème à un autre. On est trop nerveux pour rester 8 heures calme. Je pourrais pas. Et puis, le Saint-Esprit m'a dit, respire. Est-ce que tu te forces à respirer? Non. Est-ce que la nuit, tu réfléchis pour respirer? Non. Eh ben, fais la même chose avec Dieu. Prier, c'est respire Dieu. Je voudrais vous chanter ce chant. On termine à 7h30. C'est ça? Je dis, c'est ça? Il me reste combien de temps, mon frère? 3 heures? Tu me dis de l'heure algérienne ou de l'heure, combien de temps? D'accord, donc j'ai combien de temps encore? 2 heures. Non, je vais pas prendre trop de temps, j'essaie vraiment de laisser le Seigneur nous toucher. Je voudrais vous chanter ce chant, mais avant ça, je voudrais vous dire juste quelque chose. Je sens qu'ici, il y a des gens qui ont besoin d'être encouragés. Ce que je ressens ici dans l'esprit, c'est que la foi est tombée à un moment donné. Certaines personnes, c'est pas qu'ils n'ont pas la foi. Cette foi, elle s'est affaiblie. Et quand ils prient, ils ont peut-être pas été exaucés pour ceci ou cela. Paul dit, vous priez pour satisfaire vos besoins. Priez selon le cœur de Dieu. Priez pour que le royaume de Dieu avance. Vous êtes appelés l'église du réveil. Alors si c'est prophétique, que ce soit vraiment une réalité, une église qui réveille les autres. Et ça, c'est important. Une église qui marche, une église qui prie, est une église vivante, est une église qui gagne des âmes, est une église qui voit la gloire de Dieu se manifester. J'ai trop souvent visité des églises où on se complaît dans un temps de louange, où on adore même la louange. Et les gens sont tellement habitués, ils sont devenus religieux. Il n'y a plus de défi devant nous. Moi, je vis dans une ville à Roubaix, qui est une ville la plus pauvre de France, soi-disant. Et il y a des combats, c'est-à-dire des défis tous les jours. Même à l'école, mes enfants, on leur dit « Mais pourquoi tu es chrétien ?» Vous croyez que la persécution se trouve simplement dans les pays de l'Orient ? Elle se trouve à nos portes. Elle se trouve dans l'Europe. Elle a un autre visage. Mais Dieu n'abandonne personne. Il veut une église victorieuse, une église puissante. Il veut une église forte. Il veut que des hommes et des femmes se lèvent et arrêtent de se plaindre. Parce que si on se plaint tout le temps, on ne peut pas écouter Dieu parler. Que disait le psalmiste David ? Tant que je me suis tu, mes os se consumaient à l'intérieur de moi. Mais le jour où j'ai avoué mes transgressions à l'Éternel, il m'a libéré totalement. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Les promesses de Dieu sont inépuisables. Il y a plus de 366 promesses dans la parole de Dieu. Chaque jour, vous pouvez prendre cette promesse pour vous. Si je prends la lettre A, avec Dieu, nous ferons des exploits. Si on le chante pour le chanter, mais si on veut le vivre, c'est autre chose. On n'a peut-être pas la force d'affronter ce qui nous entoure. Frères et sœurs, commençons déjà par avoir le désir. Se dire que Dieu peut changer. Jamais j'aurais cru qu'un jour Dieu vienne toucher ma vie pour que je change. Jamais j'aurais cru que Dieu transforme mon cœur. Jamais j'aurais cru que Dieu pouvait me pardonner de toutes mes fautes, de tous mes péchés, qu'il pouvait me guérir. Un jour un curé m'appelle, il me dit « Vous êtes James ?» J'ai dit « Oui. » « Le chanteur ?» J'ai dit « Oui, j'ai besoin de vous. » Pourquoi faire ? « Je veux que vous venez chanter devant 3000 motards. » Oh, t'as pas confondu avec Diams ? Il me dit « Non, non, c'est vous que je veux. » 3000 motards, les Harley Davidson, là, les rockers. Il a craqué le gars. Il me dit « Non, non, j'ai besoin de vous. Il faut que vous venez chanter. » J'ai dit « Vous avez écouté mes chants. C'est très engagé. Oui, 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 c'est ce que je veux. » On va essayer de faire quelque chose. Il m'a invité 3 fois de suite. J'ai vu des motards pleurer. Le miracle de Dieu, c'est pas que j'ai chanté. C'est pas qu'ils ont pleuré. Les gros bras, il y avait des gros bras. C'est que le Saint-Esprit avait utilisé un gars comme moi, un ancien musulman, maghrébin, voleur, menteur, tricheur. Il l'a transformé, il l'a lavé dans son sang, il l'a pardonné et il l'a utilisé pour sa gloire. Pour toucher des gens. Jamais j'aurais cru que Dieu pouvait m'utiliser. J'ai fait trop de mal dans ma vie. Je me suis dit, mais comment il peut faire? Parce qu'il est miséricordieux. Combien de fois j'ai failli peut-être arrêter de chanter la musique? J'ai dit, Seigneur, c'est trop lourd. Il y a tellement de combats. Il m'a dit, ben c'est bien, t'es dans le bon sens. T'es dans le bon chemin, continue. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, je voudrais faire autre chose. Et j'avais fini un concert. Et un couple de missionnaires sont venus me voir, ils m'ont dit, je voudrais vous dire quelque chose. On a passé votre CD. Et j'ai dit oui, il m'a dit, on a passé le CD, le chant, le champion, le combat spirituel. On était en Afrique, il y avait plus de 10 000 personnes, voire 20 000, je sais pas. Et on attendait après l'évangéliste. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour faire patienter les gens? On a passé un CD. Et les gens ont écouté, j'ai cette joie en moi, amen, et puis c'est arrivé au chant combat spirituel. Entre Jésus et l'ennemi. Et je raconte ça comme un combat de boxe, puisque moi j'aimais la boxe, donc j'ai chanté ce chant, c'est chanter, parler en même temps. Et des gens tombaient, des gens étaient guéris, des gens pleuraient. Et il dit, on a vu des centaines de personnes donner leur vie au Seigneur, et on comprenait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Eh ben, Dieu était en train d'utiliser la musique comme une véritable prédication pour toucher les gens. Et il me dit, il faut pas que vous arrêtiez de faire ce que Dieu vous a donné de faire. Là, j'ai fondu. Et à chaque fois qu'on veut dire non, je veux pas le faire, Dieu dit, si, continue, je suis là. Continue. T'arrêtes pas. Il y a tellement de gens qui se perdent aujourd'hui que si tu t'arrêtes, je vais encore perdre quelqu'un. Et Dieu, quand il parle à quelqu'un d'entre nous, quand il s'adresse à nous, quand il s'occupe de nous, c'est comme si nous étions la seule personne dans tout l'univers. Vous imaginez? Quand il parle, quand il prend soin de nous, c'est comme si nous étions la seule personne. Ce chant nous dit rien n'est impossible à Dieu. Et je voudrais que, pendant que j'interprète ce chant, puissiez prier. Laissez Dieu toucher votre cœur, laissez Dieu toucher votre vie. Laissez le Seigneur transformer vos cœurs. Dites, Seigneur, j'ai besoin que tu transformes ma vie. J'ai besoin que tu changes mon cœur. J'ai besoin d'être libéré. Je sais que rien n'est impossible à toi. Je sais que tu ne me délaisseras pas, tu ne m'abandonneras pas. Et je dirai que le Seigneur est une aide précieuse pour ma vie. Ce chant nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, rien de trop pour toi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment avec la foi. Si une montagne se dresse sur ton chemin, ne crains pas pour demain. Et mets-toi à prier, prier. Pour franchir les sommets, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Car je sais qu'en priant à genoux, Dieu dans son amour prouvera qu'il peut tout faire à travers la prière. Je crois que le miracle est là. Il te tend les bras. Comme il a béni ton passé, il pourra tout recommencer. Il ne t'a pas abandonné ou délaissé. Le Seigneur sera tout près de toi. Il sera avec toi. Car moi je sais que prier pour franchir les sommets, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Car je sais qu'en priant à genoux, Dieu dans son amour prouvera qu'il peut tout faire à travers la prière. Je sais qu'il ne me laissera jamais seul, il ne me délaissera pas et il ne m'abandonnera pas, car j'ai l'assurance de son aide précieuse dans ma vie. Et avec la force de Dieu en moi, il n'y a rien de trop grand que je ne puisse être, ni de montagne trop haute ou de vallée trop basse. Mais je sais une chose, c'est qu'il nous faut prier pour franchir les sommets, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Car je sais qu'en priant à genoux, Dieu dans son amour prouvera qu'il peut tout faire, prouvera qu'il peut tout faire à travers la prière. Prouvera qu'il peut tout faire à travers la puissance de la prière. Viens, Seigneur. Souffle sur nous encore. Viens, Seigneur. Viens toucher nos cœurs. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Viens réveiller ton Église, Seigneur. Viens toucher les cœurs de ceux qui se perdent. Viens toucher la francophonie. Viens toucher l'Europe, Seigneur. Viens toucher les nations. Viens renverser les murs de l'incrédulité. Seigneur, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, viens. Nous croyons à la résurrection de Jésus. Nous recevons ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Oh, viens, souffle, Seigneur. Viens, oh, Seigneur. Viens, Seigneur. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oh, oh oui, Jésus, on vit. Oh, viens. Notre vie est en toi. Oh, viens. Oh, Seigneur. Souffle sur nous. Souffle, souffle sur nous. Oui, je crois et je viens. Oh, oh, Seigneur. Viens, Seigneur. Tu viens. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Seigneur, ce soir, nous voulons que tu touches les cœurs. Je voudrais faire un appel simplement. Ceux dont la foi s'est affaiblie et qui ont besoin de retrouver un zèle de la maison de Dieu. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Ça arrive que des fois notre foi faillit. Mais celui qui a dit que rien n'est impossible pour lui, le Dieu de l'infiniment grand et l'infiniment petit, ce soir il vient et il te dit « Mais je veux renouveler cette foi parce que je suis le consommateur de la foi. » Lève-toi à ta place. Si tu as du courage, tu te lèves, tu dis « Seigneur, je veux être fortifié ce soir. Je veux être un outil dans tes mains. Je veux être fortifié dans la foi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de Jésus. » Si tu as besoin vraiment que Dieu touche ton cœur ce soir, n'hésite pas, lève-toi, dis, oui, je veux être ce que toi tu veux. Je veux entrer dans tes projets, pas dans les miens. Je veux entrer dans tes désirs, pas dans les miens, Seigneur. Et le Seigneur qui te voit dit, oui, je veux le faire et je le ferai ce soir. Et tu seras renouvelé. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure? Et vous l'êtes dit. Et vous l'avez dit à votre voisin, et votre voisin vous l'a dit, je ne sortirai pas frustré de cette salle. Alors dites oui, je sortirai pas frustré. Parce que le Dieu Tout-Puissant veut guérir mon cœur. Il veut bénir ma famille. Il veut que je sois un véritable témoin de l'Évangile. Il veut plus que j'aie peur de ce qui se passe dans ce monde. Il veut une foi triomphante. Et si tu as simplement cette foi, laisse le Seigneur. C'est lui qui donne la foi. C'est lui qui la renouvelle. C'est lui qui la fortifie. Et c'est lui qui la consomme. Ce soir, utilise ta foi, dira là. Je sortirai avec une foi fortifiée et je sortirai pleinement béni. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui se sont levés maintenant. Je te demande de les bénir, de fortifier leur foi en Jésus-Christ, afin que leur foi soit une foi triomphante, parce que rien n'est impossible. Et au jour où ils prieront pour des personnes qui ne connaissent pas, le jour où ils prieront pour des malades, le jour où ils prieront pour des gens qui sont dans la souffrance, alors à cause de leur foi, parce qu'ils croient en toi, parce que leur foi s'est trouvée fortifiée ce soir, alors ils verront la gloire de Dieu et ils seront pleinement bénis et vous serez renouvelés dans le nom de Jésus. Hallelujah. Amen.